Mais avant de lire, nous prions. Éternel, toutes les Écritures attestent à nos cœurs de ta bienveillance. Alors maintenant que ta parole se lève dans des mots anciens, qu'elle transforme notre regard en regard d'espérance bien au-delà des apparences, un regard qui sache reconnaître dans les autres la trace de ton œuvre. Toi qui es bienveillant envers nous depuis le commencement, donne-nous par ta parole, par ton esprit, ce regard et ce cœur de bienveillance. Amen. Voici donc ce matin la troisième et dernière étape d'un parcours dans le premier livre du prophète Samuel, qui met en scène David, déjà oint mais pas encore régnant, et nous le suivons lors de trois occasions, et l'on pourrait dire trois tentations, d'user de violence en légitimant cette dernière par la confrontation avec un ennemi, le roi Saül qui cherche à le tuer au chapitre 24, Nabal l'insensé qui l'humilie au chapitre 26 et nous le retrouvons donc au chapitre 25 et nous le retrouvons donc aujourd'hui au chapitre 26. Dans ce dernier volet, non, dans le premier volet plutôt, David avait épargné Saül qui s'était trouvé dans une grotte à portée de main, d'épée ou de lance. Et David repoussé l'incitation de ses hommes à tuer Saül. Et il a refusé de porter la main, l'épée ou la lance, sur le roi oint par l'Éternel. Dans le deuxième volet, au chapitre 25, c'est la sagesse d'Abigail qui a converti David, parti en expédition punitive contre Nabal, en futur roi attentif à la promesse de l'Éternel et à la justice, plutôt que soucieux de son propre intérêt, amour propre, etc. Et donc voici donc au chapitre 26 que Saül, qui avait pourtant reconnu combien David avait été juste envers lui, bon envers lui dans la grotte, Saül s'est à nouveau lancé à la poursuite de David pour le tuer. Et nous lirons donc dans le premier livre de Samuel au chapitre 25 les versets 5 à 25. Alors David parvint au lieu où Saül campait. Il vit le lieu où couchait Saül, ainsi qu'Abner, fils de Ner, chef de son armée. Saül couchait au milieu du camp et le peuple campait autour de lui. David demanda à Ahimélec le Hittite et à Abishai, fils de Tseruya et frère de Joab, « Qui veut descendre avec moi dans le camp vers Saül ?» Abishai répondit, « Moi, je descendrai avec toi. » David et Abishai allèrent de nuit vers le peuple. Saül était couché et dormait au milieu du camp. Sa lance était plantée en terre près de sa tête. Abner et le peuple étaient couchés autour de lui. Abishai dit à David, « Aujourd'hui, Dieu t'a livré ton ennemi. Laisse-moi, je te prie, le clouer à terre avec ma lance d'un seul coup. » Je n'aurai pas à lui en donner un second. » Mais David dit à Abishai, « Ne le fais pas périr. Qui donc pourrait porter la main sur l'homme qui a reçu l'onction du Seigneur et être déclaré innocent ?» Et David dit, « Par la vie de l'Éternel, c'est à l'Éternel seul de le frapper. Soit que son jour vienne et qu'il meure, soit qu'il descende au combat et qu'il y soit emporté. Jamais. » Que l'Éternel me garde de porter la main sur l'homme qui a reçu l'onction de l'Éternel. Maintenant, je te prie, prends la lance qui est près de sa tête avec la cruche d'eau et allons-nous-en. David prit donc la lance et la cruche d'eau qui étaient près de la tête de Saül et ils s'en allèrent. Personne ne les vit, personne n'en eut connaissance, personne ne se réveilla, car ils dormaient tous. En effet, une torpeur venant de l'Éternel était tombée sur eux. David passa de l'autre côté et s'arrêta à bonne distance au sommet de la colline voisine. Il y avait beaucoup d'espace entre eux. David cria vers le peuple et vers Abner, fils de Ner. « Ne répondras-tu pas, Abner ?» Abner répondit, « Qui es-tu, toi qui pousses des cris vers le roi ?» David dit à Abner, « N'es-tu pas un homme ? Qui est-on pareil en Israël ? Pourquoi donc n'as-tu pas gardé le roi, ton seigneur ? Quelqu'un du peuple est venu pour faire périr le roi. Ce que tu as fait là n'est pas bien. Par la vie de l'Éternel, vous méritez la mort pour n'avoir pas gardé votre seigneur, l'homme qui a reçu l'onction de l'Éternel. Regarde maintenant où sont la lance du roi et la cruche d'eau qui était près de sa tête. » Saül reconnut la voix de David. Il dit, « Est-ce bien ta voix, David, mon fils ?» Et David répondit, « C'est ma voix, ô roi, mon seigneur. » Et il dit, « Pourquoi me poursuis-tu ? Qu'ai-je fait ? En quoi me suis-je mal conduit ? Maintenant, ô roi, mon seigneur, écoute-moi, je te prie. Si c'est l'Éternel qui t'incite à me faire du tort, qu'il accepte une offrande. Mais si ce sont des humains, qu'ils soient maudits devant l'Éternel, puisqu'ils me chassent aujourd'hui pour me détacher du patrimoine de l'Éternel, en disant, « Va servir d'autres dieux. » Oh, que mon sang ne tombe pas à terre loin de la face de l'Éternel, car le roi d'Israël est parti en guerre pour chercher une simple puce, comme on chasserait une perdrix dans les montagnes. » Saül dit, « J'ai péché, reviens David, mon fils, je ne te ferai plus de mal, puisqu'en ce jour ma vie a été précieuse à tes yeux. J'ai agi stupidement, j'ai commis une grande erreur. » David répondit, « Voici la lance du roi. Que l'un de tes serviteurs vienne la prendre. L'Éternel rendra à chacun selon sa justice et sa probité, car l'Éternel t'avait livré aujourd'hui à moi, et je n'ai pas voulu porter la main sur l'homme qui a reçu l'onction de l'Éternel. Et comme en ce jour ta vie a été d'un grand prix à mes yeux, ainsi ma vie sera d'un grand prix aux yeux de l'Éternel, et il me délivrera de toute détresse. » Saül dit à David, « Sois béni, David, mon fils. Tout ce que tu feras, tu le réussiras. » David continua son chemin et Saül rentra chez lui. Alors, si vous avez l'impression, après avoir déjà lu ou entendu le chapitre 24, qu'avec ce chapitre 26, le texte biblique bégaye un peu ou que le narrateur semble quand même se répéter, eh bien non, ce n'est pas tout à fait cela. Il donne du temps au lecteur, du temps pour entrer dans sa démarche, du temps pour comprendre, du temps pour un parcours personnel de réflexion, d'appropriation, d'imagination pour soi. Et si ce chapitre 25 comporte de grandes ressemblances avec le chapitre 26, comporte de grandes ressemblances avec le chapitre 24, il est pourtant différent de manière significative. Il représente, ce chapitre 26, le point culminant du parcours de David dans sa compréhension de la juste manière d'être roi, mais on pourrait dire aussi de la juste manière d'être humain, en réponse à la vocation qui est la sienne, mais qui est celle de tous et de toutes. David prend l'initiative de s'introduire dans le camp de Saül, accompagné par un de ses hommes, Abishai. Tous les hommes de Saül dorment. Saül en a emmené environ 3000 avec lui, et Saül dort également au milieu de ses hommes. Personne ne voit ni n'entend les deux intrus qui s'approchent tout près du roi. La belle occasion, pense Abishai. Autant en profiter pour se débarrasser de Saül, et comme les hommes de Saül l'avaient suggéré dans la grotte, il propose à David de tuer le roi, puisque, dit-il, c'est l'Éternel qui te le livre. Abishai est volontaire pour cet acte décisif, croit-il, pour la cause de David. Et David, une nouvelle fois, refuse. La vie de Saül doit être préservée. La vie de celui qui a reçu l'onction de l'Éternel est précieuse et intouchable. David ne veut pas décider de la mort de Saül. Il remet cela à l'Éternel. Alors la conception d'un Dieu qui juge, qui châtie en faisant mourir, est contestée par bien des textes bibliques, particulièrement dans le Nouveau Testament. Mais la remise à Dieu de la vengeance, du jugement, est cependant une manière de ne pas céder à la violence, à l'instinct de mort et de faire mourir, en reconnaissant une justice qui dépasse celle de l'humain. En paraphrasant Sébastien Castellion, qui affirme au XVIe siècle, après la mort, la mise à mort de Michel Servet, « Tuer un homme, ce n'est pas défendre une doctrine, c'est tuer un homme », nous pourrions dire « Tuer Saül, ce n'est pas défendre la cause de David, ni même défendre l'onction que David a déjà reçue, c'est tuer un homme. Et tuer un être humain, même au nom de Dieu, c'est toujours tuer un être humain, quel que soit le nom qu'on donne à Dieu et la compréhension qu'on a de lui. » Et certaines dates le rappellent douloureusement, comme celle d'aujourd'hui, 11 septembre, qui depuis 21 ans porte en lui une des formes de l'horreur du fanatisme religieux. David, lui, refuse que Saül soit tué. Il n'est pas descendu dans le camp du roi pour la mort, mais pour la vie. David n'est pas descendu sans prendre à Saül, il lui prend seulement sa lance et sa cruche d'eau. Personne ne s'aperçoit de rien parmi les hommes du roi, car le narrateur précise que l'Éternel a fait tomber sur eux une torpeur. Ça lui arrive quelquefois dans les Écritures à l'Éternel de faire tomber une torpeur sur des personnes. Par exemple, une torpeur qui envahit l'être humain en Genèse 2, afin que la femme et puis l'homme viennent au monde et viennent en relation. C'est aussi la torpeur tombant sur Abraham lorsque l'Éternel fait alliance avec lui. Cette torpeur venue de l'Éternel accompagne un événement favorable. Mais là, c'est pour David, ce n'est pas pour ceux qui se sont endormis. Enfin, quoique, s'ils le veulent bien, ça peut être aussi une bonne occasion pour eux. Mais c'est d'abord pour David, afin qu'il réalise son projet sans encombre. Nous pouvons y voir l'approbation de l'Éternel envers la démarche du fils de Jessé, renonçant à la violence et tâchant, une fois de plus, de faire comprendre à Saül qu'il ne lui veut aucun mal. Car c'est bien pour cela que David est descendu dans le camp du roi. Un roi qui le poursuit de sa haine, qui écoute les médisances et les mauvais conseils, qui a rassemblé des milliers d'hommes contre lui, qui ne tient pas sa parole. Un roi déjà meurtrier de partisans de David, qui a donné sa fille Michal, épouse de David, à un autre homme. Un roi qui ne tient aucun compte de la justice, mais qui s'en tient à sa jalousie et donne la priorité à son intérêt personnel. Un roi pour la mort. Il y a là comme un catalogue de dérives de l'exercice du pouvoir politique, du pouvoir religieux, de toute forme de pouvoir, de tout exercice de pouvoir, quel qu'il soit. Et toute l'attitude de David dans ce chapitre et réponse au comportement de Saül, une réponse qui fait le détour de s'ancrer ailleurs que dans une réaction personnelle. La réponse de David s'origine dans la vocation qu'il a reçue de l'Éternel, vocation qui le conduit à agir et à parler selon la justice. C'est pourquoi il se rend dans le camp de Saül, non comme une provocation visant à aiguillonner la colère et la jalousie du roi, mais comme une provocation de Saül afin que le roi revienne lui aussi dans l'orientation de justice qu'il a abandonnée. Même s'il y a peu de chances que Saül retrouve le sens de sa fonction. Si peu de chances d'ailleurs que Saül poursuivra sa trajectoire mortifère et mourra 2 chapitres plus loin sur un champ de bataille. Si peu de chance, et pourtant David n'abandonne pas Saül. Il tente encore une fois de tirer le roi hors de sa folie. Il tente une dernière fois, alors même que la haine de Saül le pousse à quitter Israël, à se réfugier en pays philistin. Et même si Saül ne la reçoit pas, David lui laisse une marque de fidélité et de respect. Il offre une possibilité, un choix, et il laisse à Saül la parole. En effet, quittant le camp, David emporte la lance de Saül et la cruche d'eau posée toutes deux près de la tête du roi pendant la nuit. Et depuis le sommet de la colline en face, il interpelle les hommes endormis. Certes, cette distance entre David et le camp de Saül, on peut dire que c'est une sécurité qui lui permettrait de voir d'éventuels hommes de Saül se lançant à sa poursuite. Mais cette distance, c'est aussi une distance qui marque des espaces. L'espace de la présence de David et de sa vie. L'espace de Saül que David n'envahit pas et ne supprime pas. Et l'espace du dialogue qu'il instaure et qu'il maintient même avec celui qui ne veut pas ou ne peut pas. Il y a là une condition indispensable qui signale la reconnaissance d'autrui et sa dignité. L'espace pour chacun et l'espace du dialogue, qui ne sont bien sûr pas forcément des espaces géographiques. Dans le récit, seuls Saül et David ont reçu l'onction des rois, cette onction qui oriente le comportement de David. Mais pour nous, il n'y a plus d'onction royale. Mais la conviction que l'appel de Dieu à la vie pleinement humaine est adressé à chaque personne, cette conviction nous oriente et nous engage en fidélité à cette vocation et donc en respect de toutes celles et ceux à qui elle est destinée. Chaque être humain est reconnu, connu, aimé et destinataire de la grâce de Dieu. Alors de laisser de l'espace aux personnes, à chaque personne, laisser de l'espace à la parole, témoigne de la dignité que l'on reconnaît à chacun. Dignité qui est partie intégrante de la bonne nouvelle proclamée et incarnée par Jésus de Nazareth, qui mangeait et qui parlait avec les puissants comme Jaïrus, chef de synagogue, avec des réprouvés comme Lévi, collecteur d'impôts. Jésus de Nazareth qui se souciait aussi bien des riches en danger de pétrification dans leur richesse que s'approchant des petits pour les relever dans toute leur humanité, prenant soin des uns et des autres, et jamais au détriment des uns ou des autres. Le monde est monde d'humanité lorsque chacun y a un espace, et donc une place. David accueille le monde et le présent avec Saül, Saül compris, et y compris même l'hostilité de Saül à son égard. Et c'est ainsi que David est présent dans le monde, en l'accueillant, en l'acceptant, en le reconnaissant, en l'assumant tel qu'il est. Saül y compris. Et c'est ainsi que David peut protester contre l'injustice de Saül. À l'inverse, Saül refuse le monde et le présent avec David. Il cherche à le supprimer. Il veut un autre monde et un présent sans David. Et c'est pourquoi il ne peut se tenir dans le monde où David est vivant lui aussi. Et c'est pourquoi, dans ce monde-là où David est vivant, Saül ne peut pas non plus tenir sa parole. L'interpellation de David depuis l'autre colline vise d'abord Abner, le chef de l'armée de Saül, à qui il reproche vertement d'avoir manqué à son devoir. Et c'est une manière de faire comprendre que les dérives du roi et le service d'un pouvoir abusif, violent et cruel altère les capacités à remplir un office, altère l'humanité des serviteurs de ce pouvoir. Elle les affecte profondément. Si David montre à Abner la lance et la cruche d'eau qu'il a dérobée à Saül, ce n'est pas comme des trophées ou comme des preuves qu'il est approché tout près du roi endormi. Pas seulement en tout cas. C'est aussi parce qu'il fait de l'arme et de l'ustensile le soutien des paroles qu'il adresse à Saül. La lance et la cruche servent à montrer à Saül le choix que fait David. Elles servent à inviter Saül à y réfléchir. Car David rend la lance et garde la cruche. Et c'est une manière de dire à Saül, regarde ce que je fais, regarde ce que tu fais et vois ce que tu peux faire. La lance, c'est le symbole de la force, de la puissance, du pouvoir de Saül, roi d'Israël. Le roi est censé utiliser sa lance pour défendre son peuple, pour lutter contre les ennemis, pour faire respecter la loi et la justice. Mais la lance peut être aussi, et elle est pour Saül, une arme de mort, au service de la mort, de la peur de la mort. Saül s'en sert de cette manière quand il poursuit David, en mettant sa lance de roi au service de sa jalousie et de sa haine. David prend la lance, mais ce n'est pas pour s'en emparer et s'emparer à travers elle de la royauté ou de la force de Saül. C'est pour rappeler au roi ce que représente cette lance et ce que Saül en a fait. C'est pour montrer à Saül ce qu'il pourrait en faire. Une arme au service de la justice. Alors il lui rend la lance. Que l'un de tes serviteurs vienne la prendre, l'Éternel rendra à chacun selon sa justice et sa probité. David préserve l'espace, la vie et l'avenir de Saül, même si tout ne dépend pas de lui, mais il n'humilie pas celui qui est devenu son ennemi, son adversaire. Il le reconnaît toujours comme roi. Ce que David a reçu d'Abigaïl, il veut le faire passer à Saül. De quoi grandir en humanité, une relation qui fasse écho au divin appel à vivre, ce qui n'exclut pas la critique ni la nomination précise de l'injustice. Et cela, c'est le mieux que David puisse faire pour Saül. Et c'est le mieux qui peut être fait pour toute personne vivant dans le monde. Même si cela n'est pas toujours suivi de l'effet qu'on espère. Ce mieux ne dépend pas des sentiments, ni d'une appréciation de la situation d'un strict point de vue personnel ou moral, mais ce mieux dépend d'une fidélité, d'un engagement, d'une alliance, d'un appel qui vienne de plus loin que de nos humaines considérations ou sidérations. Laisser à l'autre l'espace, pas celui qu'on veut bien lui laisser ou qu'on lui assigne, mais celui de la vocation qui lui est adressée par Dieu. Et puis laisser à l'autre quelque chose qui lui permette de conserver un peu de force et de moyens. Un petit couteau, selon l'expression du professeur Olivier Abel, et dont l'autre choisira l'usage, même si c'est un mésusage. Car Saül pourrait choisir de renoncer à la violence, puisque David lui en montre l'exemple, puisque l'alliance première de l'Éternel, après tout, celle qui suit le déluge dans le livre de la Genèse, passe par la dépose de l'arc de Dieu dans le ciel. L'Éternel n'use pas de violence envers les humains. Et puis enfin, laisser à l'autre la parole, comme David cherche à susciter celle de Saül en lui parlant, en protestant contre les médisances que Saül écoute et qu'il oblige à se réfugier chez les Philistins, en protestant de sa considération envers Saül. En ce jour, ta vie a été d'un grand prix à mes yeux. Et en protestant de sa confiance en la fidélité et la justice de l'Éternel. Ce que Saül répond, il l'avait déjà répondu une fois sorti de la grotte. Et ses paroles avaient été aussi légères qu'un peu de buée. Alors, comment le croire encore ? Mais ce n'est pas un échec pour David si Saül n'entend pas. Ce n'est pas un échec quand l'autre ne laisse plus de place à la justice dans son espace de vie, s'il ne sait plus où enraciner ses choix, si l'autre n'a plus conscience de sa vocation, s'il est tout emmêlé dans ses ambiguïtés et ses contradictions. Ce n'est pas un échec. L'échec aurait été de ne rien faire pour lui. Et même si, ainsi que l'écrit Pierre Bayle au XVIe siècle, XVIIe siècle, l'homme aime mieux se faire du mal pourvu qu'il en fasse à son ennemi que se procurer un bien qui tournerait au profit de son ennemi, nous pouvons ne pas nous résigner à cette triste connivence humaine avec le malheur. Donner à l'autre de quoi répondre, sans le réduire, sans se croire supérieur. Renoncer à la violence et maintenir la reconnaissance, présenter le possible, le choix, un chemin, c'est le mieux à faire. Et c'est justement ce que la Divine Alliance, la première, comme la nouvelle en Jésus le Christ, révèle du Dieu qui prend obstinément parti pour la vie vivante des humains. Alors David garde la cruche d'eau. C'est ce qu'il a choisi. L'ustensile ordinaire qui n'est même pas réservé au roi, mais utile à tous, hommes, femmes, enfants, vieillards, humbles et puissants, une cruche d'eau, qui est le symbole de ce qui désaltère l'humain, de ce qui le relève, l'encourage, l'épanouit, le vivifie, comme les eaux paisibles vers lesquelles dirige l'éternel berger du psaume 23, comme l'eau vive offerte à la Samaritaine par Jésus le Christ qui lui parle, eau vive d'une parole toujours offerte à chacun de nous et à tous, pour que la vie coule, pétille. Amis, frères et sœurs, gardez la cruche. Amen.